Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr. Grandjean Lapierre, qui est infectiologue et microbiologiste au CHUM à Montréal et qui est aussi impliqué beaucoup dans la recherche sur la tuberculose au Québec, mais aussi à Madagascar.
Oui, puis c'était vraiment une discussion super intéressante. On en a appris beaucoup sur le volet clinique, mais aussi le laboratoire qui est microbio-immunologie, qu'on ne connaissait pas. Puis également, on a appris beaucoup sur un programme de recherche clinicien qui te permet de faire à la fois de la recherche tout en ayant ton côté clinique. Fait que je vous suggère fortement de l'écouter si c'est quelque chose, un domaine qui vous intéresse ou vous voulez juste susciter un nouvel intérêt dans un domaine qu'on connaît peu. C'est vraiment un podcast qui est fait pour vous.
Exact. Bon épisode!
Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Docteur Grandjean Lapierre, merci beaucoup d'être ici avec nous, d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci de l'invitation, ça fait plaisir.
Donc pour commencer, on repart comme un peu du début. Okay. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine ou c'est venu un peu plus tard dans votre vie?
Pas du tout. Moi, j'ai jamais su de façon convaincue que ce que je voulais faire, c'était ce dans quoi je suis abouti. Au départ, je voulais pas faire de la médecine plus qu'autre chose. J'ai commencé dans un programme de physique à l'université au premier cycle. J'ai étudié là-dedans. Après ça, je suis revenu vers la médecine. Mais c'était tellement pas planifié qu'il fallu que je retourne faire des cours collégiales parce que je m'étais enligné dans une traque de sciences fondamentales puis pas de sciences santé. Donc, c'était pas du tout prévu.
Donc, la chimie bio, il fallait que je l'aille.
Ouais, c'est ça, des chimies organiques, je pense, puis des affaires essentielles à la pratique médicale.
Puis ça vous a pas stoppé, ça, en vouloir appliquer. Vous avez su à ce moment-là que c'est vraiment ça que vous vouliez faire. Vous étiez comme, je vais être prêt de reprendre ces cours-là. Puis ça pourrait arrêter plusieurs personnes.
Ouais, non, j'étais allé un peu avec l'intuition. Puis dans ce moment-là, à cette période-là, je pensais que j'allais être heureux dans un programme médical puis dans une pratique. Fait que je me suis lancé là-dedans, ne sachant pas dans quelle branche de spécialité ou de pratique générale, j'allais aboutir, mais à ce moment-là, c'était le bon move.
Vous êtes rentré à quelle université?
Je suis rentré à l'université de Sherbrooke, et puis à l'époque, c'était une situation un peu particulière parce que c'était l'année où ils ouvraient leur campus satellite. Mm-hmm. Donc, il y avait une première cohorte qui était admise à Moncton, une première cohorte à Chicoutimi, puis le campus Sherbrooke. Puis, bon, ça a dû changer depuis, mais il y avait tout un système de liste de priorité, de premier choix, deuxième choix. Non, non. Mm-hmm. Puis, dans tout ce détour-là, je me suis retrouvé dans une situation où là, il fallait que je choisisse si je voulais aller à Chicoutimi ou bien non à Sherbrooke. J'avais comme été bumpé là, sur les listes de façon premier choix, deuxième choix, des postes étaient libérés. Puis là, j'ai décidé que j'allais faire ma médecine à Chicoutimi, première cohorte. Donc, c'est ça.
C'était comment, ça, l'expérience dans le campus satellite? Tout. Ça devait être une plus petite cohorte, je
suppose. Oui, c'était une super expérience. C'était une cohorte de 24 étudiants à l'époque. Je pense qu'ils ont augmenté depuis. Là. Mais oui, on était 24. C'était un mélange de gens qui venaient d'un peu partout au Québec, de Saguenayens, des gens du Lac-Saint-Jean. Puis, ben c'est ça, il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de... Tout le campus était neuf. C'était une équipe extrêmement motivée, un corps professoral qui voulait vraiment que ça marche, un doyen hyper impliqué. Donc, il y avait vraiment un momentum de démarrage super agréable pour un étudiant. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr qu'en contrepartie, il n'y avait pas d'étudiants seniors.
Ouais.
Donc, c'était un peu nouveau à chaque fois, mais ça fitait avec mon style, je pense.
Ouais. Puis, y avait-tu quand même des opportunités de voir différentes spécialités, mettons, à Chicoutimi?
Mm-hmm.
Ouais.
Ouais, ben, je pense que Chicoutimi, dans les hôpitaux du Québec, ça se classe très bien. Là. C'était un hôpital qui, déjà, même avant d'avoir un programme, avait quand même une culture académique de par son affiliation avec l'Université de Sherbrooke pour la formation clinique. Donc, tu sais, ils ont de la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque, vasculaire, ils dialysent, ils ont de l'onco. Donc, c'était pas mal. L'offre de service était du moins amplement suffisante pour former des étudiants au cycle MD. Puis ils avaient déjà des résidents dans toutes sortes de spécialités. Donc, je pense que c'était juste d'ajouter là, vraiment pour eux la partie formation académique de base. Puis, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est sûr que je suis un peu moins connecté maintenant, mais ce que j'ai vécu, c'était toute une équipe qui, c'est ça, était tellement motivée que ça pouvait pas échouer. Là.
Super. C'est quand pendant votre parcours que vous avez dit « Ah, peut-être qu'il y a une infectiologie, ça m'intéresserait. »
Ça, c'est arrivé assez tardivement parce que moi, au départ, je voulais faire de la médecine de famille, je voulais faire de l'urgence. J'aime beaucoup les conditions. J'étais attiré par les conditions médicales aiguës qu'on peut régler. Chacun son trip. Donc, je me voyais comme en pratique d'urgence. J'avais eu beaucoup de modèles de rôle qui étaient dans cette pratique-là, puis qui avaient des organisations de vie, puis de famille, puis de pratique médicale qui me semblaient fitées avec ce que, à quoi j'aspirais. Donc, je me suis lancé dans cette track-là, puis là, j'ai voulu à l'externat faire quelques stages optionnels en anesthésie, parce que je me disais, mais si je vais faire de l'urgence, il faut que j'apprenne à intuber les gens, puis mettre des voies centrales, puis c'est ce que tous les urgentologues font tous les jours. Donc, j'ai tenté d'avoir un stage en anesthésie dans la région d'où je venais, et puis c'était pas possible, puis le seul stage qu'il y avait, c'était un stage d'infectio. J'ai dit, ben tant pis, je n'apprendrai pas les voies centrales, mais je vais apprendre les antibiotiques, puis je vais aller faire mon stage d'infectio à maison. Puis finalement, après ce stage-là, ben je dis, ah ben c'est le fun, puis c'est ça que je veux faire maintenant.
Ah ouais, ça a changé avec un
stage. Choix. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez aimé tant que ça dans votre rotation?
Ben j'ai retrouvé cet contexte de pratique-là, de rencontrer des problèmes aigus. Qu'on diagnostique, qu'on adresse. Il y a toujours beaucoup de stress dynamique dans la prise en charge des cas parce que les infections, généralement, ça évolue rapidement ça guérit rapidement la majorité du temps. Donc, c'était vraiment, il y avait beaucoup de cas. On investiguait, on traitait, on était témoin d'une guérison, ça rentrait dans l'ordre. Donc, ça, j'aimais ça. Puis, ce que j'avais pas anticipé, mais que j'ai réalisé dans ce stage-là, c'est qu'il y avait toute une composante de laboratoire, diagnostic, qui était vraiment prise en charge, puis supervisée par le clinicien, microbiologiste, infectiologue. Donc ça me ramenait un peu à mes premières amours de sciences fondamentales. Et puis ma chimie organique essentielle que j'avais dû
fraîchement faire faite
dans mon retour au cégep. C'est ça, je trouvais que la balance entre l'aspect laboratoire, qui est un rythme de travail très différent, où c'est qu'il y a beaucoup plus de gestion, beaucoup de ressources humaines, beaucoup d'enjeux d'assurance qualité, de vraiment voir la pratique avec une lunette plus macroscopique, plus d'approche par protocole, gestion de système, qu'on n'a pas beaucoup en pratique clinique. T'sais, c'est toujours du 1 à 1 avec un patient, une situation aiguë. Donc, je trouvais ça séduisant d'avoir un peu accès aux deux rythmes en alternance. C'est ce qui m'a aussi intéressé à ça. Puis à l'époque, moi, je voulais faire, finalement, je ne fais pas ça dans la pratique, mais quand j'étais externe dans ce stage-là, je m'étais dit que je voulais faire des infections virales chroniques, puis que je voulais faire de l'hépatite, puis du VIH, puis il y avait une pratique un peu communautaire avec des clientèles défavorisées que j'aimais, puis dans laquelle j'étais confortable. Puis je me suis dit, je vais faire ça, puis bingo.
Puis, vous avez dit que vous êtes retourné faire le stage à la maison. C'est où ça, à la maison, c'est là-bas?
Moi, à la base, je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine, puis j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, dans la banlieue à Sainte-Thérèse.
OK. Fait que vous êtes retourné aux îles ou sur la rive nord?
J'ai fait mon stage d'infectiologie à l'hôpital de Saint-Jérôme.
OK.
Ouais.
Est-ce que vous étiez tenté de retourner travailler là après? Vous avez tant aimé ce stage-là, ouais?
Non. Non, parce que après ça, les superviseurs que j'ai eus, il y en a qui étaient encore là, il y en a qui étaient ailleurs. Tu sais, une résidence, c'est quand même long. puis on est exposé à plein d'autres choses. Donc, non, ça n'a jamais été pour moi une considération d'aller travailler à Saint-Jérôme. pas que, en effet, j'avais eu un super stage, puis ils ont une équipe en infectio qui est vraiment dynamique, mais ça n'a pas été dans mon plan de match.
Fait que là, après, est-ce que vous avez repris des électives en infectiologie? Genre, si vous avez changé un peu le plan, comment ça allait et tout?
Pas vraiment, parce que l'externat de Sherbrooke, c'est un externat qui était compacté aussi, là, comme tout le programme. Donc, puis les stages à option arrivent vraiment précocement. Donc là, j'avais eu comme mes stages à option, puis il me restait un stage à option qui était après mon match.
OK.
Donc, c'était pas vraiment possible de prendre d'autres stages. Par contre, je m'étais organisé des espèces de journées d'observation entre deux stages. J'avais un peu menti sur mes absences pour pouvoir aller faire des rotations dans un autre milieu, pour pouvoir faire comme ce qu'on nous dit de faire, là, de rencontrer des gens qui sont impliqués dans les programmes, puis dans la sélection des candidats, puis qu'on me connaisse. Puis, fait que j'avais fait ça.
Ça a-tu aidé, puis tout ça, avec un ton comme si finalement ça n'a pas
changé? Oui, ça a marché. Okay. j'ai été admis, mais pour ça ou pour autre chose, je ne sais pas. Là.
Vous avez été, dans le fond, c'est ça, vous avez fait, c'est premièrement en médecine interne, ensuite un rematch.
Ben non, le programme était différent à l'époque. Là, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est un CARMS successif, comme dans toutes les spécialités de la médecine interne. Mais à mon époque, c'était un programme d'entrée. Donc, on rentrait en microbio-infectio, adulte, parce qu'il y a aussi un programme pédiatrique. Et puis, dans le programme adulte, on devait choisir un programme de 5 ans où on fait 2 ans de tronc commun et 3 ans de micro-infectio, ou un programme de 6 ans où on fait le tronc commun de médecine en bonne et due forme avec un examen et les 3 ans subséquents de la même façon. À l'époque, c'était ça le choix qu'on devait faire. Et puis, donc moi, j'ai fait médecine interne avec les certifications, puis après ça, l'infectio microbio. Mais maintenant, ce système-là a changé, puis c'est uniforme dans les facultés du Québec. On doit entrer en médecine. Et puis, on doit appliquer, comme tout le monde, à un CARMS la troisième année là, pour la sur-spécialité. Puis, les programmes de formation au Québec sont toujours conjoints. Donc, quand on match en microbio-infectio, même si c'est 2 collèges royaux différents avec 2 programmes au sens du collège royal, c'est toutes les universités font ça dans un package infectio-microbio.
Puis, c'était comment faire les 3 années de médecine interne quand vous saviez déjà, après ma barre, que vous alliez en microbio-infectio?
Ben c'était le fun. C'est sûr que j'avais pas de questions à me poser sur qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'avais pas non plus à justement préparer un autre match, une autre application, un autre dossier, à réseauter. T'sais. Moi, je dis toujours que la résidence, ça devrait pas être un plan de carrière. Mais c'est sûr que, veux pas, quand on a cette incertitude, puis c'est humain, tout le monde veut faire quelque chose qu'il aime dans la vie. Donc, on est toujours tenté, tu sais, de bien se positionner, choisir nos stages optionnels, tout ça. Mais en étant admis d'entrée de jeu, c'est sûr que ça enlève une certaine pression. Pardon. Cela dit, j'ai adoré la médecine interne, puis c'est pas parce que je savais que j'allais aller dans une spécialité déjà dès le départ que j'ai pas profité de mes 3 années puis que je me suis pas investi à plein là-dedans. Je trouvais ça le fun pendant. Puis j'étais aussi sous l'illusion que quand j'allais devenir microbiologiste infectiologue, j'allais faire plus de médecine interne que j'en fais maintenant parce que je trouvais ça le fun. Mais c'est ça, à un moment donné, le tourbillon nous emporte puis le temps manque puis on focalise sur ce qu'on doit faire.
Pour des gens à notre stade, là, en tout cas pour moi, tout ce qui est infection, c'est comme c'est tellement de stock. Là, moi, je trouve que c'est comme tellement difficile à absorber. Mais une fois dans la résidence, est-ce que c'est plus facilement absorbable pour un résident que...
Ouais, je sais pas. C'est sûr qu'il y a comme une espèce de... Tu sais, toute expérience traumatique vient avec une espèce d'amnésie défensive après ça, tu sais, comme les collèges royaux. C'est toujours, tout le monde dit tout le temps, c'était pas si pire. Pendant, c'est pire.
Ah ouais.
Pendant, c'est difficile. Puis oui, il y a beaucoup de choses à mémoriser. Puis la systématique bactérienne, l'identification des virus, tu sais, c'est beaucoup de... moi, ça m'inquiétait parce que c'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage, de mémorisation. Par rapport à d'autres spécialités, tu sais, qui sont plus peut-être mécanistiques, où là, on se dit « Ah, ben si tu comprends, tu le sais. » Tu sais, tandis qu'en infectiologie, c'est vrai que si tu sais pas que ça existe, cette affaire-là, tu ne sais pas. Par contre, en infectiologie, il y a un cursus qui est somme toute assez fini, tu sais. des infections, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais puis de temps en temps, il y en a des nouvelles. On a vu ça récemment. Mais tu sais, ça reste que c'est quelque chose où on est capable de systématiser une investigation, de fonctionner par syndrome, de connaître certaines listes de pathogènes, tu sais, qui peuvent être responsables de telle ou telle présentation clinique.
Les grandes catégories.
Oui, puis même si on veut aller pas dans les grandes catégories, tu sais, dans le livre de médecine infectiologie, les virus, quand on les a toutes vus, on les a toutes vus, tu sais, il n'y a pas des choses qui, à part une pandémie de temps en temps, tu sais, c'est assez circonscrit. Bon, les manifestations peuvent être diverses puis atypiques, mais une fois qu'on est passé à travers cette espèce de d'éventail de possibilités-là, ben ça devient une spécialité agréable parce qu'on a un sentiment de maîtrise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Puis c'est vrai que la résistance aux antibiotiques, c'est un problème émergent. Puis que là, les antibiotiques qu'on utilise, puis les traitements, ça change beaucoup. Mais tu sais, tout se modernise là, dans les spécialités autres. Je parle à travers mon chapeau, mais je suis sûr que maintenant, on prescrit des bêta-bloqueurs que moi, je n'ai jamais prescrit de ma vie. Puis ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est ça. Je pense que c'est pire que ça en donne l'impression, ce sentiment de vertige devant l'ensemble du contenu. Mais je pense que c'est aussi un peu comme ça dans d'autres spécialités, puis qu'une fois que la période d'apprentissage et d'évaluation surtout est passée, ça n'a pas l'aspect.
Puis souvent, on nous dit qu'il faut aimer le bread and butter d'une spécialité pour la choisir. En infectiologie, c'est quoi le bread and butter?
Ben, ça varie beaucoup des centres, hein, parce que en infectiologie, on est une spécialité de service, au sens où, tu sais, les patients, il y a des infections acquises en communauté. Tu sais, n'importe qui peut faire une cellulite parce qu'il y a eu un traumatisme en communauté, il y a des ITSS, bon. Mais la grosse majorité de ce qu'on fait en pratique clinique, c'est de la gestion de complications infectieuses, de procédures médicales, de traitements immunosuppresseurs, de chirurgie. Tu sais, la plus grande cause d'infectiologie en centre hospitalier de soins aigus, ça demeure, tu sais, iatrogénée. Parce que la grande majorité des infections communautaires sont traitées en première ligne par les médecins qui travaillent en plus de proximité avec la communauté. Puis en spécialité, on n'est pas sollicité pour de la pneumonie acquise en communauté d'un patient qui n'a pas de critères d'hospitalisation, par exemple. Donc, c'est sûr qu'en spécialité, ce qu'on voit, c'est beaucoup ce qui émerge du milieu dans lequel on travaille. Fait que si c'est un milieu qui a une grande vocation de chirurgie spécialisée, ben il y a beaucoup d'infections post-opératoires. Si c'est un grand centre d'oncologie, ben il y a de la neutropénie fébrile puis des infections opportunistes d'oncologie. Si on est dans un centre où il y a de la transplantation, ben là, c'est de la gestion péri, pré, post transplantation de conditions infectieuses. Donc le bread and butter, tu sais, pour moi, il est très différent de ce que ça serait pour un infectiologue qui travaille à Sept-Îles ou à Saint-Jérôme. Mais dans ma pratique de centre académique au CHUM, c'est sûr qu'on a un gros volet chirurgical, un gros volet oncologique, puis on est un centre de transplantation. Fait que c'est surtout ça que sur la garde clinique, on voit.
Puis comment ça fonctionne exactement? Vous dites que vous êtes un volet de service, donc on vous appelle en consultation. Vous allez là, mais vous n'allez pas en consultation à toutes les gens qui ont des infections?
Ben c'est ça qu'on espère. Non, on ne va pas à toutes les infections. Ça fonctionne sur base de demande de consultation. Donc, si un médecin, son équipe, les résidents ont un patient qui présente une condition infectieuse pour laquelle ils ont débuté un traitement empirique de première ligne qui ne semble pas fonctionner ou qui les inquiète ou que le patient a des comorbidités, des interactions médicamenteuses, des allergies qui font en sorte que c'est un peu plus spécial puis qu'on doit aller vers des traitements de deuxième ligne ou que la poursuite ou l'arrêt du traitement dans le timing n'est pas clair, bien, c'est surtout dans ces cas-là où on est sollicité.
Puis vous rendez sur place, est-ce que vous évaluez le patient? J'ai un peu de la misère à comprendre dans la
durée. Fait qu'on arrive le lundi matin, puis là, c'est notre tour d'être de garde aux étages en infectiologie. Donc, on a un pagette ou un téléphone cellulaire pour les plus modernes. Puis, s'il y a un oncologue qui a donné de la chimio il y a une semaine à un patient puis qui arrive à l'urgence puis fait de la fièvre, bien là, il nous appelle. Puis oui, on se déplace, on va évaluer le patient, on le questionne, on l'examine, on révise ce qu'il y a eu comme traitement, c'était quoi ses facteurs de risque avant qu'on l'immunosupprime pour des infections latentes, occultes, c'est quoi ses expositions contemporaines aux problèmes infectieux, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers, est-ce qu'il a été hospitalisé récemment, donc plus à risque pour des germes nosocomiaux, est-ce qu'il avait été dépisté pour certains pathogènes, puis là, ben, on fait un diagnostic probabiliste, puis on prescrit des analyses microbiologiques, des cultures, des sérologies.
Puis vous allez en lab les faire, c'est la composante laboratoire qui...
Oui, après ça, ces échantillons-là s'en vont au laboratoire, puis le laboratoire, ben, c'est pas... pour une journée donnée, la même personne qui fait le clinique puis le laboratoire, parce que c'est des rotations occupées en clinique. Mais donc, au laboratoire, il y a toujours un microbiologiste infectiologue qui est de garde au laboratoire, pour qui le rôle, c'est, dans le fond, de superviser le travail de l'ensemble de l'équipe technique au labo, de répondre aux questions pour des échantillons qui sont inhabituels, pour des souches bactériennes qui sont difficiles à identifier, pour des prescriptions de médecins qui nous envoient des analyses pour lesquelles les analyses doivent être envoyées dans d'autres laboratoires parce que c'est des analyses spécialisées. Toutes les analyses pour lesquelles un résultat final est émis par notre laboratoire doivent être validées par un microbiologiste qui s'assure que c'est pas des résultats aberrants puis que l'ensemble des techniques qui ont été utilisées sont conformes. Donc, on fait ce travail-là. Puis, ça, c'est vraiment le travail longitudinal au laboratoire. Après, dans un laboratoire, ben, selon l'équipe de microbiologistes, selon la portée des analyses qui sont disponibles, chaque analyse est sous la supervision d'un microbiologiste. Puis on sépare un peu le travail, puis on est responsable sur le long terme de mettre à jour ces protocoles-là, de s'assurer avec notre équipe technique qu'ils sont faciles à appliquer, que tout est bien, faire l'assurance qualité, les contrôles, on soit des analyses inconnues de laboratoires extérieurs pour tester si on est bon. fait qu'on supervise ces analyses-là, puis on fait un suivi aussi d'espèces de vigie des nouvelles technologies dans le diagnostic microbiologique, de ce qu'on doit faire comme développement pour rester à jour, de ce qu'on doit apporter comme changement dans nos modes d'opération pour être plus efficient, être plus performant. Puis quand il y a des choses qu'on choisit d'implanter, bien, on fait tout le processus de mise en place de nouvelles analyses.
Donc dans l'équipe, mettons, d'infectiologie, d'en avoir qui sont un peu plus spécialisés dans la partie comme microbio, puis d'autres dans la partie... J'ai l'impression que c'est tellement large, partir comme des petites bestioles, des petites molécules jusqu'à comme l'être humain devant nous. Là, c'est sûrement qu'il y a comme beaucoup d'opportunités de se spécialiser ou de faire de la recherche là-dedans.
Oui. Bien, tout le monde doit être capable de répondre à la consultation d'infectiologie générale. Mm-hmm. Puis tout le monde doit être capable de faire sa semaine au laboratoire où il supervise les technologistes puis il répond aux questions. Puis... Donc, le bread and butter, tu sais, tout le monde est apte. Après, c'est sûr que pour favoriser le développement d'expertise, pour que les gens puissent avoir un peu une niche dans leur pratique, puis qu'on arrime un peu les intérêts cliniques avec les intérêts laboratoires, la distribution des responsabilités et fait en sorte, tu sais, des intérêts, des formations postdoctorales, de fellowship, de tous et chacun. Mm-hmm. Donc, oui, il y en a qui sont plus penchés vers certains volets de développement clinique, puis il y en a qui sont plus penchés vers certains volets de développement de laboratoire. Mm. Mais tout le monde est capable, en l'absence de l'un et de l'autre, là, de la même façon que tous les cardiologues ne mettent pas des pacemakers.
Ouais.
Mais tout le monde est capable de faire la consultation à l'urgence.
Douleur thoracique, mettons.
Exactement.
Puis là, parlons-en de votre sous-spécialité. Vous avez fait un fellowship à Madagascar, je pense.
Hein? Oui, moi j'ai fait un fellowship. Ma première partie de fellowship était sous la forme d'une maîtrise à Marseille.
Okay.
Puis ma deuxième partie était sous la forme un peu plus laxe, là, d'une espèce de post-doctorat à Madagascar. À Marseille, j'ai fait beaucoup de laboratoires de biologie moléculaire. Donc, le séquençage d'ADN des mycobactéries, la tuberculose, pour le dépistage de la résistance aux antituberculeux et pour l'épidémiologie moléculaire. Donc, de comparer le code génétique de bactéries ensemble pour savoir si les patients se sont transmis la bactérie.
OK. Mm.
Fait que j'ai fait ça au niveau labo. Puis après, dans ma deuxième partie de fellowship, ben là, j'étais à Madagascar avec un angle plus de d'implantation de ces technologies-là dans leur laboratoire de référence, d'intégration de nouveaux outils diagnostiques dans les stratégies de santé publique en tuberculose. Fait que c'est devenu un petit peu plus une approche programme qu'une approche bactérie. Fait que ça a été ça un peu les deux parties de mon fellowship. Puis quand je suis revenu ici, ben j'ai maintenu mes activités de recherche, surtout avec le site à Madagascar. On a toujours des projets là, en diagnostic, santé publique, tuberculose.
Puis en parlant un peu de la tuberculose, il y a beaucoup de gens, je pense que surtout ici, là, au Canada, pensent que c'est un peu une maladie, pas qui n'existe plus, mais qu'on n'entend pas vraiment parler. C'est vrai. Puis c'est quoi votre opinion là-dessus? T'sais, je me dis, si vous êtes sous spécialité là-dedans, c'est parce que vous devez voir qu'il y avait un manque.
Ben c'est sûr, tu sais, la tuberculose, c'est vrai qu'on l'oublie, mais avant la COVID, puis probablement dans le futur aussi, parce que la COVID va se tomber à un état d'équilibre, je pense, tôt ou tard. Mais avant la COVID, la tuberculose, ça demeurait la maladie infectieuse qui tue le plus de gens sur la planète à chaque année. Même si on croit que c'est une maladie qui a été éliminée ou que c'est une maladie du Moyen Âge, c'est vrai que c'est une vieille maladie. C'est vrai que la tuberculose a coexisté avec les humains depuis très longtemps, mais on n'est pas sorti du bois, c'est pas une maladie qui est éliminée. Puis même si on a de bons outils diagnostiques et de bons traitements, que c'est une maladie qui est qu'on peut prévenir et qu'on peut guérir, on n'est toujours pas capable d'en venir à bout. Puis là, on a pris avec le stress systémique qu'a mis la COVID sur nos systèmes de santé globalement. On a pris des années et des années de recul dans notre combat face à la tuberculose. Et donc, c'est un problème de santé publique mondial. C'est une pandémie qui dure depuis très longtemps. Et puis, ici même au Canada, on a encore des cas qui sont reliés à différents facteurs de risque, là, soit de l'immigration, de la transmission. Ici, il y a des communautés du Grand Nord au Canada où il y a encore de la tuberculose. Puis, on doit faire mieux pour éliminer la maladie chez nous, puis continuer d'aider tout le monde à l'éliminer chez eux.
Les solutions, les solutions ou les problèmes, là, ou les deux, surtout au niveau, justement, santé publique, accès aux soins, mettons, ou aussi au niveau, justement, des traitements, plus niveau microbio?
Ouais, je pense que les traitements sont bien connus. C'est sûr que c'est des traitements qui demeurent assez longs, puis qui peuvent avoir de la toxicité, puis qui nécessitent un suivi rapproché. Mais on a les ressources pour faire ça, ici au Canada surtout. On a des médecins, on a l'expertise, on est capable d'offrir des soins de grande qualité, autant au diagnostic qu'au traitement. Je pense en effet qu'on doit être meilleur pour être plus proactif dans le dépistage, pour faciliter l'accès, pour s'assurer que les gens sont en confiance avec notre système de santé, et puis que notre système de santé est en confiance avec les populations, puis qu'on est capable, dans tous les contextes, d'avoir des soins optimaux qu'on peut offrir à tout le monde. Mais il persiste des inégalités au Canada.
Voilà. Puis pourquoi Madagascar, c'est comme un site où est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans? C'est parce que justement c'est surreprésenté en termes de tuberculose?
Pas vraiment, beaucoup plus qu'au Canada évidemment, mais c'est un pays qui ressemble dans son profil épidémiologique de tuberculose, tu sais, à beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne où il y a beaucoup de tuberculose, pas énormément de résistance aux antituberculeux, pas énormément de co-infections VIH, mais beaucoup de tuberculose. Et donc, puis pourquoi? Ben parce que moi, j'avais, à l'époque, quand j'étais dans cette période de fellowship, j'avais une opportunité d'aller travailler là, puis il y avait un programme qui était aligné avec mon progrès dans ma formation, mon intérêt. Donc, je suis allé travailler à Madagascar, puis une fois que j'ai eu développé un réseau, que je me suis intégré avec des institutions de recherche puis des partenaires localement là-bas, puis que le besoin est toujours présent, ben c'était un no-brainer de continuer le travail.
Est-ce que vous y allez encore une fois de temps en temps?
Ben oui, je suis revenu vendredi. Donc, avant qu'on soit en pandémie, mon plan, c'était d'être là 2 à 3 fois par année. Là, j'ai pris une longue pause, mais je reprends du service. Là. Donc, normalement, pour la supervision de toutes les activités de recherche, maintenir cette espèce de lien-là avec l'équipe, puis avoir l'opportunité de pouvoir planifier nos activités, puis analyser nos données, puis un peu faire une espèce de réflexion sur ce qu'on est en train de faire. Je trouve que ça, c'est pertinent de faire ça en face à face avec les gens. Et donc, je suis là, c'est ça. Si possible, deux fois par année, mais en Teams à toutes les semaines.
Puis comment ça fonctionne avec votre emploi au CHIMS? Est-ce que c'était une entente quand vous êtes fait engager que vous aviez de la recherche à Madagascar puis de temps en temps vous allez partir? Ou?
Pas vraiment. Moi, c'était comme un peu mon choix de spécialité. Je voulais pas faire ça avant de partir en fellowship. T'sais. Puis c'est pendant mon fellowship que j'ai développé cette espèce de passion-là pour de la recherche puis que je voulais continuer puis que j'avais des projets en cours puis des collaborateurs puis ça semblait intuitif que ça pouvait fonctionner. Mais une fois que je suis revenu, réussir en recherche clinique, c'est difficile. Puis je dis pas ça parce qu'en insinuant que moi j'ai réussi, c'est vraiment un processus qui est compliqué, qui est très compétitif. On a un programme au Québec qui est un excellent programme, qui est celui de chercheur clinicien du Fonds de recherche en santé Québec, qui permet aux cliniciens de protéger du temps, d'assurer une rémunération qui est compétitive avec le reste de leurs associations de pratique, mais d'avoir l'opportunité d'être protégé pour faire des activités de recherche. Donc, c'est un des meilleurs statuts que je connaisse au monde pour faire de la recherche. Par contre, c'est un programme, évidemment, comme ça implique une des subventions publiques qui est un programme compétitif où on doit soumettre des programmes de recherche révisés par des comités de pairs qui doivent évaluer si les candidatures puis les thèmes de recherche proposés sont pertinents, sont bien structurés, ont du potentiel. Et donc, ça fait que... c'est quand même un long processus, mais c'est un programme qui, une fois en place, aide énormément les gens à faire de la pratique de clinique et de recherche. Parce que de la clinique, c'est très demandant.
Ouais.
Puis si les balises ne sont pas vraiment bien établies, c'est difficile de pas toujours devoir travailler plus, puis ça empiète rapidement avec la vie extra-professionnelle.
Mm-hmm. Ce programme-là, est-ce que vous devez réappliquer à chaque projet de recherche, à chaque année, ou c'est comme une fois que vous vous êtes appliqué, vous êtes rentré dedans, puis vous êtes là pour X nombre d'années?
Oui, c'est des cycles de 4 ans. Donc, ça commence par ce qu'ils appellent un junior 1. Donc, une fois qu'il y a certains critères d'éligibilité, on doit appliquer dans un certain laps de temps après la complétion de la formation pour pouvoir faire une transition. Puis là, une fois qu'on a quelques chances, je ne me souviens plus toutes les règles, mais bref, une fois que le programme subventionne la carrière de clinicien-chercheur, bien là, c'est une enveloppe de 4 ans. Puis après ça, après 4 ans, bien, il faut réappliquer en effet. Puis les critères sont différents parce que le programme s'attend à ce que dans la carrière de clinicien-chercheur, bien, il y a certains éléments qui sont propres à un clinicien qui débute. Puis il y a certains éléments qui sont plus attendus de quelqu'un qui est en milieu de parcours. Puis en fin de course, bien, il y a certains éléments où on devrait avoir... plus de réseautage, plus de supervision, plus de translation vers certaines politiques puis d'intégration avec nos systèmes de soins. T'sais, on passe un peu vraiment du paradigme là, d'avoir un bon projet de recherche puis une bonne formation vers avoir construit un bon programme de recherche qui fait ses preuves puis qui a des répercussions t'sais, au niveau des applications médicales ou de santé publique. Là,
ça prend quand même beaucoup d'efforts, là, j'ai l'impression. Fait que, t'sais, mettre beaucoup d'efforts là-dedans, plus beaucoup d'efforts en clinique, c'est comment de gérer ça?
Ben, il faut accepter qu'on ne peut pas être le meilleur dans tout le temps. Puis sectoriser, puis si c'est 50% clinique puis 50% recherche, ben et quand il va y avoir un autre cycle, puis à un moment donné, on va retomber dans le 50% clinique, puis on sera rendu là, puis on va retomber dans le 50% recherche, puis on sera rendu là. Mais à la fois en clinique, parce que des patients, puis des demandes de consultation, c'est sans fin. À la fois en recherche, parce que de la connaissance, puis des nouvelles idées, puis des projets, c'est sans fin. Il faut développer une forme de résilience, puis être serein avec le fait que quand arrive l'heure, ben tout n'est pas terminé, puis ça continue demain.
C'est comment votre aussi la conciliation travail et vie personnelle, tu sais, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vos collègues, mettons, en infectiologie que vous avez pu observer?
Bien, je pense que, règle générale, on est une des bonnes spécialités pour concilier une vie familiale. On est une spécialité de service, on n'a pas de lit d'hospitalisation. Donc, puis on a des gardes, tu sais, qui sont chacun son tour, là, mais on n'est pas une spécialité où les gens vont appeler beaucoup pendant la nuit. On est une spécialité où, quand on est là, c'est sûr qu'on finit tard, mais on fonctionne par rotation, chacun son tour. Puis après, ça dépend beaucoup des groupes, mais je pense que moi, j'ai la chance d'être dans un groupe où il y a beaucoup de... Un, on est beaucoup, donc il y a plus de marge. Puis on est un groupe qui est assez bien tissé, puis qui est conciliant, puis... se donne un coup de main. Fait que chacun a sa situation personnelle, familiale à lui, mais au final, je pense que tout le monde trouve pas mal son compte, puis il n'y a pas de frustration de fond là, sur le fait que la spécialité en soi, puis notre modèle d'organisation de pratique inhibe certains choix ou certaines réalités personnelles.
Si vous aviez attiré des étudiants dans votre spécialité, c'est quoi le message que vous donneriez en tant que tel?
Ben, je dirais qu'il faut vraiment être passionné par cette dynamique, justement, de trouver l'infection, trouver l'antibiotique, puis faire le suivi. Faut vraiment aimer le contenu, parce que après, dans l'organisation de pratique, que ça soit dans une spécialité ou dans une autre, il y a tellement d'imprévus puis de variabilité. La seule certitude au moment de faire un choix, c'est le contenu de la science. Puis on ne sait pas comment va évoluer notre condition de pratique, on ne sait pas comment vont évoluer nos groupes. On peut faire un choix sur la base d'une spécialité pour un modèle de vie, mais avoir un collègue qui tombe malade puis soudainement, c'est pas ça. On peut faire un choix sur... tel geste, puis finalement, il nous arrive quelque chose, puis on ne peut plus le faire. T'sais, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, si au départ, on est sûr qu'on est passionné par le contenu de la question scientifique de cette spécialité-là, c'est virtuellement la seule chose qui va nous suivre jusqu'à la fin de notre carrière. Donc, puis ce que je conseillerais à tout étudiant, c'est de ne pas se laisser décourager ou de se laisser encourager par des facteurs tels, tu sais, le nombre de postes, c'est quoi les PEM sur le plan quinquennal, tu sais, ces choses-là. Même moi, je suis très tôt dans ma pratique, mais quand je me compare avec mon entrée en résidence, c'est plus les mêmes spécialités qui sont hot, c'est plus les mêmes spécialités qui sont en pénurie, c'est plus les mêmes spécialités qu'on a besoin absolument critique, c'est plus les mêmes gens qui quitte le Québec parce qu'il n'y a pas de poste. T'sais, tout ça change tellement vite que ce n'est pas des bases sur lesquelles on devrait prendre une décision de carrière. T'sais.
C'est un point de vue intéressant. Des fois, on est comme dans la roue qu'on entend tellement autour de nous.
Exactement.
C'est dur, il faut se laisser influencer par ça. Mais...
Présentement, en infectio, on est dans une phase où c'est très, très, très restrictif. On a 3 postes de résidence au Québec par année. Alors que quand moi j'ai été admis, on avait 2 ou 3 par faculté par année. Donc, tu sais, on est passé de 8, 9, 10 par cohorte à 3 par cohorte. Puis quand on se questionne là-dessus, puis qu'on en parle entre collègues, j'ai des collègues qui sont plus seniors qui me disent « Oui, mais moi, j'étais le seul résident au Québec. » Puis après ça, il y en a d'autres vagues, de d'autres générations. Ils disent « Ouais, ben nous autres, on était plein. » Donc, tu sais, il y a toujours, avec le fameux plan de PEM, une espèce de retour du balancier qui est tout le temps décalé puis jamais adapté à la situation maintenant. Mais c'est pas fixe, ces choses-là, tu sais. Puis entre le moment où on est en externe puis le moment où on va faire un match au CARMS, même si c'est juste 4 ans, tout peut changer. Donc, si on est convaincu que sur le fond, on aime ça, faut y aller.
Voilà. Puis moi, j'ai aussi une question un peu par rapport à tout ça, mais c'était comment vivre la pandémie de la COVID-19 en tant que microbiologiste infectiologue? Il me semble que dans votre entourage, ça a dû vous faire harceler de questions.
Ben, ça a été vécu différemment par tous et chacun, mais je pense que tout le monde, comme infectiologue, comme microbiologiste, comme spécialiste du diagnostic de la COVID, comme personne ressource pour les modalités thérapeutiques émergentes, comme spécialiste de prévention des infections pour toutes les décisions qui devaient être prises dans un contexte de soins aigus, soins communautaires, pour lesquels il n'y avait pas de science au départ. T'sais, tout le monde est passé par toutes les gammes d'émotions. Au début, il y avait une espèce de fébrilité. Puis beaucoup de gens nous disaient ça. « Ah, mais toi, t'es infectiologue. » Ça doit être ton rêve, tu sais, de vivre une pandémie, tu sais. Non! Personne vivait son rêve, tu sais. Personne souhaite ça. Personne... C'est sûr qu'on a été très, très sollicités. Puis dans les moments où on assumait un rôle central dans la prise de décision, puis qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, puis qu'il y a une plus-value, puis que ça mène à du positif, c'est sûr que c'est gratifiant. Mm. Mais en même temps, la charge de travail, comme pour beaucoup d'autres, les médecins hospitaliers, les médecins de soins intensifs, c'est sûr que quand je commence à nommer, je vais en oublier, mais tu sais, tout le personnel médical dans toutes les ressources humaines d'un centre hospitalier, là, peu importe le rôle, les gens ont été surtaxés. Puis cette espèce d'empathie, puis d'altruisme, puis de désir de s'impliquer a été vraiment poussé à sa limite parce qu'il n'y a pas de fin. T'sais. Donc, je pense que tout le monde l'a vécu différemment. Si tu as une famille à la maison, si tu vis seul, là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu ne peux plus sortir, puis que tu es confiné? Il n'y a pas deux microbiologistes, je pense, qui ont eu la même pandémie. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de microbiologistes qui n'ont pas travaillé extrêmement fort. Puis, je pense pas qu'il y a de microbiologistes qui n'ont pas eu un impact positif sur notre réseau. Donc, mais après, tout le monde a eu sa petite montagne russe là, d'excitation, d'ambition, de déception, de frustration, comme les Québécois, finalement.
Ouais. C'est ça, tout le monde a eu, c'est haut et c'est
bas.
Oui,
non, oui, non, masque, pas masque.
Ouais. C'est là. Bon, ben merci. Avez-vous quelque chose à plugger à nos auditeurs avant de...
Non, je pense qu'on a couvert pas mal ce que je fais dans la vie. Ouais. Fait que je vous encourage à considérer, si c'est une spécialité qui était inconnue pour vous, à vous renseigner. Et puis, si la recherche clinique vous intéresse, c'est aussi quelque chose dans lequel on a beaucoup de besoins. C'est une super pratique. Donc, pour des gens qui sont en formation médicale, même si c'est des spécialités qui sont moins fréquentes puis pour lesquelles on a moins de modèles de rôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de microbiologistes au Québec, ça vaut quand même la peine d'aller jeter un petit coup d'œil puis de voir si c'est pour vous.
Oui, excellent.
Merci beaucoup, c'était vous avoir. Ouais.
Puis à nos auditeurs, n'oubliez pas d'aimer notre page Instagram, Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
Faut faire le pouce.
Parlez-en à vos amis. Ouais. Merci.
Merci.